Voici une quatrième nouvelle intitulée « Le harem du Padishah Al-Adar ». Interprète, le comédien Roland Vouillot. Réalisation, Jean-Michel Mayer.
Eh oui, c'est vrai. Il n'était pas rare que nous évoquions Al-Adar, le Pacha Al-Adar. Nous, compagnons de table partis avec de grandes espérances, mais enlisés dans le giron d'un café enfumé dont jadis, il y a peut-être 20 ans, il fut un modeste membre bienséant. Qui aurait pu imaginer... Même s'il y en avait qui essayaient d'affirmer qu'eux avaient toujours deviné en Al-Adar, fils de boucanier, la personnalité promise à un grand avenir, je me souviens parfaitement que ce furent les mêmes qui se montrèrent le plus surpris quand les premières étonnantes nouvelles nous parvinrent sur Al-Adar. Avouons-le, au début, on le prenait pour un fou. Plus tard, au vu de ses succès, tout au plus pour un habile aventurier. Ensuite, pour un escroc de grande envergure et... Ensuite, nous devions renouveler relativement souvent l'image que nous nous faisions d'Al-Adar. Depuis le jour où il a disparu de notre cercle, nous n'avons eu que de vagues nouvelles. Il est certain qu'il était brusquement devenu un homme plus intéressant que nous autres, qui suivions son parcours avec attention. Le jour où Bottos nous a apporté la lettre dans laquelle Al-Adar racontait qu'il était devenu marchand de tapis à Alger, et qu'il y faisait de bonnes affaires, nous avons haussé les épaules en disant que ça n'avait rien d'étonnant. Il était le fils de son père, bon commerçant. De la viande fumée ou des tapis, c'est du pareil au même. Son engouement pour les arts, et principalement pour ce qu'on appelle l'art de bien vivre, qu'il avait conduit dans notre compagnie, n'était apparemment qu'un vernis. Mais son cas... n'était pas aussi simple. Deux ans plus tard, la nouvelle qui nous a tous laissés pantois a fait l'effet d'une bombe. Al-Adar avait fait une carrière militaire dans quelque armée exotique. Il avait battu les troupes occupantes anglaises. La presse mondiale était pleine du général Al-Adar. Les journaux publiaient sa photo dans un incroyable costume d'opérette. C'était bien lui. Nous n'avions pas la berlue. Sous son casque guerrier orné d'une queue de cheval, c'était sa tête blonde et douce bien connue. Bientôt, nous n'eûmes même plus le temps de nous étonner. Al-Adar était grand prêtre dans une congrégation asiatique dont nous ne connaissions même pas le nom. Elle régnait pourtant sur 50 millions de fidèles. Une bagatelle dans un pays théocratique où se rend représenter un pouvoir et une fortune incommensurables. Une sorte de Dalai Lama. Des voyageurs qu'il avait vus comptaient des merveilles du luxe oriental dans lequel il vivait. Al-Adar était prince. Il existait au pied de l'Himalaya, un pays au nom imprononçable. C'était le sien. Al-Adar avait une cour, comme il se devait. Possédait une grande autorité et était en relation diplomatique avec des États européens. La carrière d'Al-Adar, ce vivant conte de fées de nombreuses années, a fini par nous lasser. Puis, pendant une dizaine d'années, ce fut le silence. Nous nous sommes fait à l'idée qu'Al-Adar serait un jour empereur de Chine. Il fonderait la dynastie Al-Adar et inscrirait son nom dans l'histoire des dieux. On n'avait aucune nouvelle information, on ne pouvait d'ailleurs pas en avoir, sinon celle qui paraissait au compte-gouttes dans des publications scientifiques sur son compte. L'Asie est loin, nous avons failli oublier Al-Adar. Al-Adar était même devenu ennuyeux. Al-Adar avait perdu son charme à nos yeux, comme à l'école une leçon d'histoire. Et c'est ainsi pourtant que les dernières nouvelles qui nous sont parvenues par le truchement d'un témoin digne de foi on réveillait notre intérêt pour Aladar plus intensément encore que si nous avions appris, mettons, qu'il avait effectivement été nommé empereur de Chine. Ces nouvelles ont directement ravivé notre attention en tranchant dans notre chair, dans la profondeur de nos désirs les plus intimes et de notre nature la plus humaine. Aladar a apparemment renoncé à la politique, à la carrière militaire, ainsi qu'à la prêtrise mystique. Il a préféré le capitalisme oriental. Il s'est installé tout un domaine quelque part dans la péninsule indochinoise, où il a réalisé, selon certaines informations, ce parfait idéal de l'art de bien vivre dont nous avions jadis tant rêvé ensemble. Ce qui nous excitait le plus, c'est que, dans le prospectus qui relatait la légende d'Aladar, c'était un prodigieux harem qui jouait le plus grand rôle. Aladar avait fondé un harem à la façon des coutumes locales. Aladar, le padishah Aladar, avait une cinquantaine de femmes. Il vivait comme Sardanapal. Et ce qui était le plus beau, c'était que selon certains indices, sur le plan physique et spirituel, il avait réussi à joindre à ce bonheur antique princier le confort de notre siècle. Il avait installé le palais des plaisirs babyloniens et les jardins de Sémiramis avec le goût d'un nabab américain. Les données précises nous manquaient, mais nous croyons savoir qu'il possédait un avion et une radio et qu'il avait même été vu en vêtements européens. Jusqu'alors, nous ne faisions qu'admirer Aladar. Cette fois, c'est notre jalousie qui éclata. Bottos frappa sur la table. « Putain, mon vieux, ça c'est une vie. Tu penses 50 femmes, sélectionnées dans toute l'Asie, les plus beaux spécimens, des filles de mandarins chinois soigneusement préservées, des femmes guépards arabes, des vierges éthiopiennes, des fleurs à la peau d'olive et aux yeux verts comme Mae Wong au cinéma, puis des beautés caucasiennes à l'étincelante chair blanche. Et tout ça pour lui. Une pour chaque jour, selon son caprice. » Eh ben, mon pote, je suis trempé de sueur rien qu'à l'idée. Hé, mademoiselle !» Il jeta un regard osé sur la chétive serveuse qui accourait en toute hâte vers notre table. « Un croissant !» hurla Bottos comme s'il exigeait de cette jeunette asservie à ses désirs impériaux la restitution de son trésor depuis longtemps perdu. Six mois plus tard, en ma qualité de journaliste, à l'issue du mémorable atterrissage forcé du Zeppelin en Indochine, j'ai soudainement et par hasard eu le droit d'entrer dans le harem du padishah Aladar. Première grande surprise, à la place d'un exotique palais des fées, une assez jolie et assez grande bâtisse, mais certainement pas un château, plutôt quelque chose comme un cottage anglais ou une maison de vacances, ou comment dire, un hôtel ou une pension de famille. Je m'attendais à ce que des Indiens en costume d'Adam me bandent les yeux et me traînent devant leur souverain. Sur mon coup de sonnette, un domestique ensommeillé vient m'ouvrir. « Qui cherchez-vous ? » demande-t-il en anglais. « Le padishah, » balbutiai-je, terrorisé. Je devrais peut-être lui adresser une demande, ou plutôt une requête. » Le domestique hausse les épaules. « Vous voulez parler à Monsieur Stux ? Je vais l'appeler. » Je n'en reviens pas. Aladar s'appelle effectivement Stux, ou plutôt s'appelait avant de... Oui, c'était bien Stux. En revanche, je n'ai pas le temps de méditer. Le domestique crie quelque chose, il me pousse devant lui, j'escalade un escalier assez large, puis je me retrouve dans un local circulaire bien éclairé, d'où s'ouvre une quantité de portes. Le domestique a disparu, mais j'entends sa voix. « Monsieur Stux, dépêchez-vous, un compatriote !» Des pas dans l'escalier, une porte s'ouvre et apparaît Aladar. Il porte un veston gris, un pantalon blanc, loin d'être immaculé, un col de chemise ouvert, des documents à la main. Avant de se tourner vers moi, il hurle encore en anglais vers l'escalier. « Dites au coursier de m'attendre, ou plutôt qu'il revienne demain, ou mieux le premier du mois. » Ensuite, il me rejoint vite. Son visage a beaucoup changé, il s'est émacié, il a vieilli, il est agité de tics. Pendant qu'il me tend la main, il regarde autre part. « Salut Kovacs. » Sa voix est aimable, mais aussi naturelle que si on s'était quitté la veille. J'arrive à peine à proférer « Aladar » et je sens que je me fige en statue de sel. Il sourit un instant, mais ça ne dure pas. Ah, « Tu me trouves changé. Que veux-tu? C'est la vie. Prends place, mon cher. Quoi de neuf chez nous ?» Le monde tourne autour de moi, mais je fais l'effort de m'asseoir. J'entends à peine ma propre voix quand j'entame mécaniquement. « Chez nous, tu peux l'imaginer, on ne parle que de toi, de ton extraordinaire carrière. » Il fait un geste désabusé de la main. Bien sûr, l'aventure algérienne, la prêtrise. On n'a pas encore oublié ces balivernes à la maison. Des balivernes ? Il veut répondre, mais au même moment, un cri déchirant de crécelle retentit derrière une des nombreuses portes. Aladar ! Je sursaute effrayé. Aladar ne tressaille pas. Il blêmit seulement un peu plus. Il dresse nerveusement les oreilles et me chuchote. « Pardonne-moi un instant. Oui, c'était Fatima. Je reviens. Je dois te quitter une minute. » Et à haute voix, en anglais, vers une porte. « J'arrive, ma chérie, tout de suite, mon ange. Un ami d'Europe, mon trésor. » Et tout en parlant, il disparaît derrière une porte. Je suis planté là, je regarde anxieusement autour de moi à la recherche d'une issue possible. Alors, c'est une autre porte qui s'ouvre brutalement. Une beauté orientale de haute taille, la peau olivâtre, les yeux étincelants, penche son buste en avant. Elle est habillée à l'européenne. « Aladar !» crie-t-elle sur un autre registre, mais non moins coléreux que le précédent. Combien de temps tu crois que je vais encore attendre mon fer à friser? Une fois de plus, tu préfères t'envoyer en l'air avec la Zuleika? Elle me voit. Oh, pardon, c'est pas lui? Où diable il traîne encore, ce minable? Il claque la porte. Mais je l'entends encore maugréer. On entre ici comme dans un moulin. On ne sait plus sur qui on tombe dans sa propre maison. Aladar paraît au même moment. Un peu haletant, une joue rouge, l'autre pâle. Il affiche un sourire forcé. « Excuse-moi, cher ami. Maintenant, je suis à ta disposition. Et Fatima est un peu nerveuse. Ça lui passera. Alors comme ça, chez nous, j'espère que tu restes pour déjeuner. » Brusquement, une nouvelle voix retentit derrière nous. « Mais voyons, la place ne manque pas. De toute façon, moi, je vais au restaurant. Je ne déjeune pas avec cette poufiasse. Elle a copié ma robe. C'est d'ailleurs ta faute. » Nous nous retournons tous les deux. Un petit bout de femme blanche à la figure romantique débite ce discours, les larmes aux yeux, en gesticulant. Aladar essaie de la calmer. « Ma chérie, pour l'amour du ciel, attends, tu n'as pas raison. Je n'ai jamais conseillé à la Haute-Si de se faire faire la même. » Puis il se tourne vers moi. « Oh, excuse-moi, mon cher. Permets-moi de te présenter à une de mes épouses préférées, à ma chère Andalousie. Voici Monsieur Kovacs, mon vieil ami. » Andalousie me toise et déclare du bout des lèvres. « Enchanté. Un bel homme. Est-il marié ? Si oui, il ferait mieux de déguerpir avant d'apprendre de ce vaurien comment on fait pour torturer une femme à mort, rien que parce qu'elle est douce, raffinée, fidèle, et pourtant ce ne sont pas les possibilités qui manquent. Des hommes autrement plus vaillants que votre petit cornichon d'amis bavent après moi. » Elle repart sur ses talons en sanglotant et claque la porte derrière elle. Andalousie est un peu nerveuse. Tant pis, ça lui passera. Tu sais bien comment sont les femmes. Mais je te présenterai à Eudoxia. Elle est grecque. Un ange. Un vrai ange, tu vas voir. Mon unique consolation. Une épouse délicate. Nous sommes très heureux ensemble. Nous irons faire une promenade au parc tous les trois. Tu veux bien ? Pour parler du bon vieux temps. Oh, le bon vieux temps à Budapest. Il n'achève pas. Une nouvelle femme surgit par une porte. Cheveux noirs, yeux bleus, un peignoir léger. Elle pousse un cri. À la barre ! John vient de me dire que tu as encore renvoyé la facture de Robinson au mois prochain. J'en ai honte. Je n'ose plus me rendre au salon. La modiste ne livrera jamais mon chapeau. Tu me rends folle, folle, folle. Seigneur, Eudoxia...
Tu oses encore ouvrir la bouche ? Oh, je n'en peux plus.
L'instant suivant, une nature morte arrachée du mur vole vers la tête d'Aladar. Je m'écarte et je me sauve, pris de panique. Du bas de l'escalier, j'aperçois encore les 50 portes qui s'ouvrent avec une femme dans chaque embrasure. Elle crie, elle gesticule, elle se crêpe le chignon, elle se rue sur Aladar, dont la tête pâle sombre dans le tumulte. J'ai pris le rapide du soir pour l'Europe. Je n'ai jamais raconté à personne mon aventure dans le harem du Padishah Aladar. 50 fois mari, sans jamais porter la culotte.
Le harem du Padishah Aladar. Une nouvelle de Frigies Carinthy, lue par le comédien Roland Vouillot.